Aïssa Maïga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, on vous a vu dans L'un reste l'autre part de Claude Berry, Les poupées russes de Cédric Lapiche, L'écume des jours de Michel Gondry, Le marsupilami de Chabat, Caché de Michael Haneke, pour dire à quel point votre carrière est tout et son contraire. Vous êtes à l'affiche de Il a déjà tes yeux, mais aussi Corniche Kennedy, un film plus exigeant, comme on dit, signé Dominique Cabrera, c'est tiré du roman de Maïlys de Kerangal. Racontez l'histoire, ou plutôt les deux récits en parallèle.
Donc c'est une histoire qui se passe à Marseille, sur la Corniche Kennedy, qui est un lieu où les jeunes viennent sauter du haut d'une corniche, ils viennent risquer leur vie pour s'amuser. Et il y a en parallèle l'histoire des flics. Je suis capitaine de la brigade des stupes, et ces deux histoires vont se mêler, et c'est un très beau film.
Parce que ces petits jeunes, évidemment, trempent pas seulement dans la Méditerranée, il trempe aussi dans le trafic.
Oui, il y en a notamment un qui, pour améliorer son quotidien, devient l'homme de confiance d'un gros dealer marseillais.
Dominique Cabrera, elle dit avoir rencontré un ange gardien marseillais, un policier très spécial. C'était qui et est-ce qu'il vous a aidé?
Oui, on a rencontré Philippe. Qui travaille au Stup à Marseille et qui est quelqu'un de très engagé, qui croit vraiment en l'humain et qui nous a emmenés dans cet univers très spécifique de la brigade des Stups. C'est des flics pas comme les autres.
Ah oui, mais est-ce que le film est réaliste?
Le film, il est à la fois réaliste, poétique, contemplatif, il est très charnel.
Vous faites une filature de gros dealers avec une seule voiture et sans vide teinté, ils vous repèrent toujours. Ça se passe comme ça en vrai à Marseille?
Mais ça se passe comme ça, pas forcément uniquement à Marseille. En fait, au Stup, ils ont assez peu de moyens, mais ils sont très efficaces.
Hein. Ah bon ?
Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les dealers et les enquêteurs finissent par se connaître et ils tissent des liens.
Ah oui, alors par exemple, la policière qui ramène chez lui un mineur en voiture, c'est réaliste ?
Ça peut arriver.
Et il y a quelque chose que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il n'y a pas l'acteur parisien qui imite l'accent marseillais.
Ah non, mais je suis incapable, je suis nul en accent, moi.
J'ai appris après qu'ils étaient tous du coin.
Exactement, mais en plus, Dominique Cabrera les a trouvés sur la corniche. Elle s'est baladée. Dominique, elle a fait du documentaire. Et elle a cette démarche de vraiment s'inspirer, travailler à partir du réel. Et elle a trouvé ces jeunes qui sautaient sur la corniche. Elle a fait un casting, elle en a trouvé, elle les a fait travailler pendant 2 ans.
Alors, je veux dire, les sauts, certains sautent parfois de 6 mètres, et il y a même des sauts de 12 mètres. Mmh. Même en le regardant, on a peur.
Ouais.
Pour eux, est-ce que vous avez essayé, pas le 12 mètres, mais...
Mais moi, je peux même pas faire un saut d'un mètre, je suis une flippette.
Normalement, c'est tellement haut, tellement dangereux qu'il est interdit de sauter de ces points-là. Comment vous avez fait pour les autorisations de tournage?
Opération commando.
C'est-à-dire?
Dans le secret. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver des moments où ça n'était pas surveillé et où les jeunes ont sauté et où les caméras, tout le monde était prêt pour capter ça.
Dans le roman de Maïlys de Kerangal, le personnage du commissaire est un homme. Pourquoi vous l'avez transformé en femme? Enfin, ça, c'est la réalisatrice. Mais alors plutôt vous, comment vous l'avez transformé en femme, ce mec?
Ah, c'est difficile de répondre, parce que moi je ne l'ai pas transformé en femme. Le personnage était déjà un personnage féminin quand je l'ai lu. Mais c'est vrai que à l'origine, c'était un personnage d'homme d'un certain âge. Moi je me suis vraiment attachée à d'abord découvrir ce qu'était le métier de flic au Stup, et de comprendre quelle était la part de solitude de ce personnage qui croit en l'humain, mais qui est prise dans une marée de problèmes qu'elle ne peut pas gérer seule.
Vous incarnez une policière, et à un moment, il y a un jeune qui vous dit, je cite de mémoire, « C'est la honte de faire ce métier quand on est noir. » Et vous lui répondez, « Je ne suis pas noir, je suis flic. » Et je me dis, tiens, cette réplique aurait pu être écrite par elle.
Elle était déjà au scénario.
Ah oui?
Elle était déjà au scénario, et c'est une phrase que je trouve très forte, parce que elle synthétise tout ce qu'est le personnage par rapport à sa fonction.
Vous êtes à l'affiche d'un autre film, ça s'appelle « Il a déjà tes yeux », c'est une comédie avec Lucien Jean-Baptiste qui retourne le cliché de l'adoption. Racontez le pitch parce que c'est trop beau.
Le pitch, un couple, ils s'aiment, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont noirs. Ils adoptent et on leur donne un bébé blanc. Et à partir de là, alors que eux aiment cet enfant, ils vont se retrouver dans une tornade de problèmes liés aux stéréotypes et aux préjugés.
Aïssa Maïga avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. La comédienne Aïssa Maïga avec nous sur France Info, qui est à l'affiche de 2 films. Il a déjà tes yeux, c'est une comédie. Et Corniche Kennedy, c'est un film plus exigeant, comme on dit, de Dominique Cabrera, qui est tiré du roman de Maïlys de Kerangal. Il y a une citation de vous qui m'a donné à réfléchir. Vous disiez ça à Paris Match il y a 10 ans. Vous avez dit, en démarrant dans ce métier à 20 ans, j'ai également découvert que j'étais noir. expliquer ce que vous vouliez dire par là.
Évidemment, je savais depuis un moment hein, que j'étais noire, que j'étais née au Sénégal. Ouais. et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en devenant comédienne, évidemment, je suis arrivée avec tous mes rêves et j'avais envie d'incarner des très beaux rôles au théâtre, au cinéma. Et puis, au début, on me disait non, c'est pas possible parce que t'es noire. Et en fait, j'ai découvert à quel point la couleur de peau pouvait être une barrière dans mon métier.
Et je vous cite encore, vous dites avoir parfois dû accepter une humiliation.
Non, j'ai pas accepté l'humiliation.
Vous dites, ah, c'est ce que vous avez dit, Paris Match, 13 septembre 2007. Et j'allais vous demander, c'est quoi l'humiliation quand on est comédienne?
Alors, parfois j'ai dû accepter des rôles en me disant, bon, ce qui est le plus important, c'est d'abord d'exercer ton métier, de t'améliorer et d'être sur le ring, de pouvoir te battre. Parce que si tu ne mènes pas le combat, en fait, tu n'existes pas et t'es out. Et donc oui, parfois, il y a eu des rôles, mais ça a été très très rare. Parce que honnêtement, j'ai été très gâtée. J'ai fait des très belles rencontres régulièrement et c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragée. S'il n'y avait pas eu ces rencontres avec Clapiche, avec Claude Berry, avec Michael Haneke, avec Abderrahmane Sissako, avec Dominique Cabrera, et j'en passe, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps.
En même temps, il faut aussi nourrir sa famille.
Oui.
Un jour, à ce micro, Jean Rochefort m'a dit qu'il a fait beaucoup de films qu'il appelle lui-même Avoine Foin, parce qu'il a des chevaux et qu'il faut les nourrir.
C'est
et
énorme.
Il dit, c'est pas des navets, c'est des films Avoine Foin.
Ah oui. Non, en fait, moi, franchement, je renie rien. Si j'avais pu être dans une exigence totale, il y a des films que peut-être je n'aurais pas fait. Si vraiment j'avais été dans une intégrité à 2000% par rapport à des choix esthétiques, politiques, etc. Mais après, honnêtement, dans chaque expérience, je sais que ma réponse est longue, dans chaque expérience, j'ai tellement appris que non, je ne regrette rien du tout.
La réponse est longue, mais intéressante. Votre vie n'est pas si longue, mais très intéressante. Vous êtes né d'un père malien, d'une mère sénégalaise. À 5 ans, vous avez quitté Dakar et vous êtes arrivé à Paris avec votre père qui vous élevait seul. Et c'est pas courant. Pourquoi vous êtes parti avec le père et non pas avec la mère, comme dans 95% des cas?
Parce que mon père était quelqu'un de spécial. C'était un homme qui était... Bon, d'abord, c'était quelqu'un de solaire. C'était quelqu'un qui avait le sens de la famille, un sens accru des responsabilités et il a cru bon de... Il s'était séparé de ma maman.
Ouais.
Il a cru bon de m'emmener avec lui en France. Et je crois qu'une de mes tantes, qui s'appelle Rama, qui se reconnaîtra, y est pour beaucoup parce qu'elle elle était très féministe, tout comme lui d'ailleurs, et elle lui a dit « Ta fille, il faut que tu l'emmènes ici, c'est ici qu'elle aura le plus de chance. » Mais il m'a pas élevée seule parce que j'avais une belle-mère.
Votre papa était journaliste à Jeune Afrique, et pardon de le dire, mais ici on est sur France Info, il est mort en reportage au Burkina Faso, et paraît-il, ou certainement empoisonné. Est-ce que vous avez enquêté sur sa mort?
Pas encore.
Vous avez envie de le faire ou au contraire, laisser toutes ces choses-là floues dans les méandres?
Enquêter, non, parce que je ne suis pas journaliste et je ne suis pas flic. Sauf dans Corniche Kennedy. Mais en tout cas, oui, je me sens aujourd'hui dans une maturité, une sérénité qui fait que ouais, j'ai envie d'aller me balader dans cette histoire et de chercher des réponses.
Vous aviez 8 ans seulement?
Oui.
Et alors j'ai trouvé une déclaration de vous très forte il y a 10 ans. Vous avez dit, l'idée de la mort est omniprésente en moi, c'est mon moteur, ma source d'énergie pour profiter du temps présent. Est-ce que c'est toujours le cas?
Complètement. Ça s'appelle une névrose?
Vous avez la tête de tout, sauf de quelqu'un de névrosé.
Car je cache bien mon jeu. Non, mais en fait, je pense que j'ai été forgée, comme tout le monde. Les premières années de l'existence sont extrêmement marquantes. Et du coup, j'ai été impactée par la question de la mort. Très jeune, et puis j'ai perdu des êtres chers très régulièrement. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été omniprésent et que j'ai intégré comme étant une source positive dans laquelle je pouvais m'alimenter, au-delà du choc.
Aïssa Maïga, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Pour une fois, c'est moi qui pose la question. Qui peut être à la fois aujourd'hui sur les écrans dans Corniche Kennedy, le film de Dominique Cabrera, et dans la comédie Il a déjà tes yeux, notre invité, Aïssa Maïga, tout et son contraire. Vos oncles et vos tantes qui vous ont élevé à Paris, Paris 12e, étaient des intellos, c'est ça, je suis bien informé. Est-il vrai que vous avez dû apprendre leur langue africaine?
Mais non, parce que mon oncle... C'est le cousin de mon papa.
Ouais.
Donc, il parle à la base la même langue que mon père, qui est le Sonraï.
Ah bon?
Donc, non. Mais en fait, le Sonraï, moi,
c'est...
je le parle. Non,
et ma source,
non,
c'est Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique qui dit, vous avez dû apprendre le Sonraï.
Non, parce que déjà, mon père parlait Sonraï à la maison, mais mon oncle, qui m'a élevé par la suite, lui, ne le parlait pas. On parlait que français à la maison. Donc, le Sonraï, il était présent depuis que j'étais bien plus jeune.
Vous expliquerez avec les gens de Jeune Afrique. Est-il vrai que vous aimeriez bien tourner une pub pour le Vélib?
J'ai dit ça?
Journal du dimanche 23 septembre 2007.
Mais c'est pas possible, j'ai pas dit un truc pareil. Ah, une pub pour le... Non mais attendez, quand on enlève les phrases de leur contexte, elles deviennent totalement inintelligibles. Donc je l'ai peut-être dit. Je pense que vous savez lire et que les journalistes qui ont écrit ça l'ont mis parce que je l'ai dit. Mais j'ai dû le dire parce que... Mais je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas.
Est-il vrai que vous faites faire vos propres bijoux au marché des artisans de Bamako?
Ah oui, ça m'est arrivé quand j'y étais, mais là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée et ça commence à beaucoup me manquer.
Est-il vrai que vous avez lancé une pétition, je reste dans les bijoux, pour faire interdire des bijoux de la marque Mango?
C'est vrai. On a voulu faire interdire les bijoux Mango qui s'appelaient la ligne Esclave, avec Sonia Roland, Rokhaya Diallo et Isabelle Bonny-Clavry.
Est-il vrai que vous avez deux portables? D'abord, c'est vrai ou pas?
Ce n'est plus vrai.
Un pour appeler, un pour recevoir.
Non, ça n'a jamais été vrai.
Vous l'avez dit au journal Elle.
Ah, c'est pas possible.
Mais vous l'avez dit, ils l'ont pas inventé. Alors,
non, je pense que c'est pas un truc qu'on peut inventer, mais à l'époque, j'avais deux portables, un pro et un perso. Mais c'est... Non, ça fatigue.
Est-il vrai que, c'est vous qui l'avez dit, on ne me verra jamais les seins dehors?
Mais comment j'ai pu dire un truc pareil?
L'Express, 19 octobre 2006. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Non, en fait, ce que je voulais dire, il doit manquer un mot.
C'est quoi?
Gratuitement. Non, mais gratuitement dans le sens du sens. Pas dans le sens de l'argent. Il faut que ça ait du sens. Vous laisserez bien mon explication jusqu'à la fin. C'est énorme.
Est-il vrai que vous avez une énorme attirance pour les pharmacies?
Ah oui, c'est encore vrai.
Qu'est-ce qui vous plaît dans
quand j'arrive dans un bled et que je sais que c'est le week-end et que je sais qu'il y a une pharmacie de garde, je suis hyper contente.
Et qu'est-ce que vous allez y faire?
Mais parce que dans les pharmacies, on peut trouver des produits de soins, des médicaments au cas où il arriverait quelque chose. Et puis je sais pas, j'aime bien savoir que c'est là.
Et vous avez même dit, alors les pharmacies me happent, j'ai sans cesse envie de m'arrêter pour m'acheter des crèmes.
C'est nul. Non, ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui, comme vous, qui a beaucoup d'humour, qui m'a posé cette question avec beaucoup de dérision, et j'ai voulu répondre avec l'humour, moi aussi. Et ça me poursuit.
Est-il vrai que vous avez la folie des magazines?
J'achète des magazines, pas tellement féminins d'ailleurs, mais j'aime bien les dossiers. Ouais. Quand les magazines sortent des dossiers spéciaux, j'adore.
En fait, ce qui m'intéressait, c'était la suite, vous dites, ouais. J'arrive jamais à les jeter.
Mais c'est vrai.
Et c'est comment chez vous?
C'est quand même rangé et propre.
Non, parce que là, mon info date de 2006, 10 ans sont écoulés.
Alors, j'ai fait de temps en temps, je fais un nettoyage de printemps et j'en enlève mais quelques-uns seulement parce que j'ai... Mais d'ailleurs, je ne pense pas me tromper. Je pense que dans quelques décennies, ça aura presque valeur de livres. Certains magazines, par exemple les numéros spéciaux du magazine Histoire, sur les religions, sur... Enfin, je ne sais pas, sur les sciences, l'astrophysique...
D'accord. Ça vous a plu cette interview?
C'est déjà fini?
Ouais.
Pourquoi?
Bah parce que c'est la fin, parce qu'il faut rendre l'antenne. On était bien. Ma question était, est-il vrai que chaque fois qu'il vous arrive une bonne nouvelle, vous achetez un sac à main?
Non, c'est faux. Ah, j'ai jamais dit ça.
Elle, 17 janvier 2009.
Ah non, c'est pas moi.
Ah, c'est qui? Alors, il y a une nana qui a exactement le même nom que vous.
Oui, et elle me poursuit. Et elle raconte n'importe quoi.
Merci beaucoup, Aïssa Maïga, d'être venue nous voir.